gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bienvenue dans la causerie sur Radio Canu ou radiocanu.org. Il est 22h et deux brouettes et on est le dimanche 13 septembre. Voilà.
Ouais, merci. Tu veux donner la météo aussi ?
Il pleut. Il pleut et il fait très froid. Mais sinon, on va vous mettre du baume au cœur parce que ce soir, autour de la table, il y a Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Et bonsoir.
Et Clara à la technique.
Bonsoir.
Et Emma, bien sûr, qui a fait une ouverture météo ce soir.
Exactement. Il est important de se retrouver sur des vraies valeurs. on va donner quelques petites informations. Si vous voulez interagir, ça ne se dit pas. Interagir. J'arrive pas, c'est l'angoisse. Aidez-moi.
Bon, alors, si vous voulez nous écrire.
Ouais, voilà. Non, c'était, tu vois, la notion de feedback et tout, j'aimais ça. Avec nous, tout au long de l'émission, vous pouvez nous écrire à
lacauseriecanu@gmail.com.
Ou bien nous rendre visite sur notre blog à
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et nous trouver aussi sur Facebook.
Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des retours à faire sur les émissions, des choses à nous dire, ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou si vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez nous écrire, ou même d'ailleurs passer, nous faire un coucou et discuter. On est souvent là une petite demi-heure avant l'émission. Voilà, n'hésitez pas. Ben oui, ça fait toujours plaisir de rencontrer du monde. On aime bien les gens. Donc voilà. Et ce soir, une émission un petit peu particulière par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est ce qu'on appellerait entre guillemets une causerie allongée. Non, une causerie rallongée, pardon. Pas allongée du tout, rallongée. Où, ne ris pas, c'était pas volontaire. Où en fait, on va vous parler d'un sujet comme on fait de temps en temps sur les trois. Là, au lieu d'avoir trois chroniques, vous aurez un seul sujet, mais avec trois angles d'attaque. Voilà, et ce soir, on va vous parler du sujet des migrants, réfugiés, êtres humains. Mais qu'est-ce donc que tout cela ? Voilà. Oui. Et ça démarre, Emma, avec un document, c'est ça, que tu as trouvé sur la toile.
J'ai trouvé ça sur la toile. Alors, juste pour annoncer le sujet, ça fait quelques temps qu'on le prépare et il n'était pas forcément en lien avec l'actualité. C'est-à-dire qu'on devait vous en parler il y a un petit mois de ça. Au final, ça ne s'est pas fait parce qu'on a eu d'autres sujets à présenter. Et donc, il était déjà prêt. Et effectivement, on s'est dit que c'était pas mal. Donc, on a rajouté quelques éléments de l'actualité vu la montée de commentaires complètement dégueulasses auxquels on a pu assister ces derniers jours. Et donc, oui, on avait trouvé un petit document qui est fait par Amnesty International Belgique. Alors qui est quand même assez bien fait, même si le dernier mois, je n'ai pas tout apprécié de ce qu'avait fourni Amnesty International. On en reparlera, je pense, à une prochaine causerie. Mais en tout cas, c'est un petit document donc, qui s'appelle « Répondre facilement à 10 préjugés sur la migration » qui est sorti il y a moi, je l'ai connu il y a environ effectivement un mois de ça. Et en fait, donc, c'est un document qui nous rappelle juste des fondamentaux et qui vous aide aussi à répondre, vous savez, à quand on en avait déjà parlé, quand on se retrouve à ses dîners de famille ou alors qu'on croise son voisin de palier ou n'importe qui ou son collègue de travail à la pause café et qui nous sort des aberrations du style « Ah oui, mais de toute façon, les migrants viennent ici parce que l'herbe est plus verte et parce que les allocations... » sont les meilleurs. Et en fait, voilà, Amnesty nous donne, enfin remet des bases, va à l'encontre de certains préjugés en nous donnant en fait, vraiment des statistiques et repose aussi la définition qui me semble essentielle sur tous ces jours entre le migrant, le demandeur d'asile et le réfugié. Du coup, donc juste... C'est dégueulasse ce que je viens de faire, pardon.
C'est pas grave.
Les auditeurs ne le voient pas. Donc
non, les auditeurs ne le voient pas. Donc, le migrant, pour remettre, c'est juste une personne qui quitte son pays pour aller vivre sur un autre territoire pour de multiples raisons, et ce, de façon temporaire ou permanente. Certains migrants se déplacent de leur propre gré, d'autres y sont forcés, notamment en raison d'une guerre ou de persécution.
Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que toute personne qui se déplace, en dehors de ses frontières, on va dire,
oui.
Ça, même si pour moi le concept de frontière est un peu un concept pas terrible, même pour pas dire à détruire. Du coup, ça veut dire que toute personne qui s'en va de ses frontières est un migrant.
Ou une
migrante, du coup, si c'est une femme. D'accord.
Est un migrant. Un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays en quête d'une protection internationale, mais qui n'a pas encore obtenu le statut de réfugié. Il ne peut pas être envoyé de force dans son pays pendant la procédure d'examen de sa demande d'asile. De plus, une personne ne peut être envoyée de force dans son pays si sa vie ou sa liberté y est menacée. Principe de non-refoulement.
C'est les accords de je ne sais plus d'où, d'ailleurs. Mais donc, du coup, le réfugié est un migrant, entre guillemets, à part, qui part, lui, pour des raisons
Ouais, le demandeur,
spécifiques.
Le demandeur d'asile,
qui a un
statut particulier, mais
d'accord.
Reste un migrant.
Tout comme le, comment on appelle ça, l'expatrié, comme on dit,
oui.
Est un migrant finalement.
On en reparlera après, mais oui. Et un réfugié est une personne qui a fui son pays parce qu'elle craint avec raison d'y être persécutée en cas de retour du fait de son identité, son origine ethnique, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques et dont le gouvernement ne peut ou ne veut assurer la protection. À la différence d'un demandeur d'asile, le statut de réfugié lui a été reconnu.
D'accord.
Voilà, juste pour remettre les bases. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'actualité et la problématique des réfugiés syriens, on balance tous les mots à tort et à travers, et parce qu'au final, ça nous arrange bien. Et on n'arrête pas de parler de migrants syriens, ce qui est vrai, puisque de toute façon, le migrant, comme on peut le voir au niveau des définitions, concerne tout le monde. Sauf que ils sont des migrants, mais avant tout, ils sont des réfugiés, qui est un statut particulier, parce qu'effectivement, ils fuient leur pays, je le rappelle, à cause de choses non sympathiques qui sont en train de s'y dérouler. Enfin, qui s'y déroulent depuis quelques années, mais qui se sont intensifiées...
Une petite guerre,
c'est rien du
tout. Truc de base, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on le balance à toutes les sauces, plein de mots un peu comme ça, tire-l'argot, mais le fait de parler de migrants... et pas de réfugiés, c'est juste un moyen de dire, mais en fait, finalement, ils viennent nous envahir.
Exactement.
Alors
oui.
Que le statut de réfugié, qui est un statut, je crois que c'est l'ONU d'ailleurs, qui, le HCR, le commissariat aux réfugiés, qui fixe les règles pour être réfugié, en gros, c'est si vous avez une guerre dans votre pays, ben, si vous fuyez la guerre, vous êtes automatiquement réfugié. Donc, on se doit, au nom des accords internationaux, de prendre soin de vous, quoi.
Oui, et on parlait en fait du statut d'expatrié, mais encore là, ça nous a. Enfin, il y a toujours cette espèce de point de vue comme quoi le migrant serait toujours celui qui vient dans les pays riches pour. Parce que, comme l'expression populaire dit, l'herbe est plus verte ailleurs. Sauf qu'on oublie que le petit Français qui va faire ses études aux États-Unis dans une super université, ou le bon petit Français aussi qui va en Chine dans une entreprise à Shanghai reste un migrant également.
Tout à fait.
Mais cela, on leur a accordé le statut d'expatrié parce que l'expatrié, c'est tout de suite mieux. Et que via le statut d'expatrié, on a tout un ensemble d'idées qui accompagnent, c'est-à-dire la personne qui va et qui part quand même avec une certaine fierté de son pays, qui va à un autre pays parce que... Alors l'herbe n'est pas plus verte, hein, parce que c'est jamais bon pour la France de dire que les États-Unis c'est mieux, mais bon, on peut comprendre qu'il aille découvrir le monde à la recherche d'une expérience internationale, toujours pour revenir en France après.
Oui, c'est ça.
Il y a cette espèce, hein, bien sûr, de nationalisme. Oui, c'est ça. Et puis l'aspect patriotique, bien sûr, c'est on vient pour se faire une expérience internationale, hein, pour se faire 2-3 contacts, un bon carnet d'adresses, mais après on vient se servir de tout ce qu'on a appris pour que la France en bénéficie, quoi. Mmh.
Ouais, c'est un peu des ambassadeurs, comme on dit, du pays ailleurs. Alors, c'est pas vrai du tout, mais ça fait bien de dire ça, quoi.
Exactement. Par contre, effectivement, quand on a, nous, des migrants qui viennent en France, tout de suite, pose...
C'est un problème.
C'est un problème.
On voit bien la différence.
On voit bien la différence. Et donc, effectivement, ce soir, moi, je voulais revenir donc sur ces 10 points qui sont soulevés par Amnesty. Parce que j'ai entendu mon cher Nicolas Sarkozy qui nous disait donc que, comme par hasard, les migrants venaient en France, enfin les migrants syriens s'attaquaient, parce que c'était son mot, d'abord à la France parce qu'on avait des meilleures allocations que les autres pays européens. Alors, juste pour répondre à Nicolas et aux autres, alors, j'arrive. Elle est où, bien sûr ? C'est celle-ci ? Non, c'est pas du tout celle-ci.
Alors, vas-y. On y est, on est toujours là. Hein. Vous êtes toujours sur Radio TNU.
C'est juste qu'Emma a perdu sa page. Ça va revenir.
Non, alors voilà. Ils viennent, donc, on nous dit, en gros, pour toucher nos allocations. Et puis alors, bien sûr, ce qui est dit en ce moment, dans cette espèce de paranoïa, c'est, mais déjà que... Je crois que c'est moi qui ai fait ce bruit-là.
C'est pas grave, continue.
C'est, enfin, déjà que c'est la crise en France, mais attention, ils viennent, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà qu'on n'a pas de travail pour nos chers compatriotes français, que va-t-il se passer ? Du coup, Amnesty nous rappelle quand même que... ils nous disent simplement qu'il n'y a pas autant de populations immigrées qui sont bénéficiaires des allocations familiales ou des allocations dues au chômage. Et il nous rappelle, et ça j'aime beaucoup, s'ils s'y retrouvent, c'est souvent parce qu'ils sont victimes de discrimination à l'embauche. Il nous rappelle qu'il faut savoir qu'aucune aide n'est accordée du simple fait d'être un étranger. Les personnes en séjour irrégulier, donc les sans-papiers, n'ont droit à aucune aide, sauf l'aide médicale d'urgence. Il n'y a qu'une seule exception dans le cas d'un enfant mineur en état de besoin. Seul le statut de réfugié ou autre protection permet d'avoir droit aux revenus d'intégration sociale et d'avoir accès également au marché du travail. On va quand même rappeler, comme tu le disais Fab, que le revenu d'intégration sociale...
C'est que dalle, hein. C'est à peu près l'équivalent du RSA, à peu de choses près. Quoi.
C'est le strict minimum pour vivre, ouais. Pour survivre. On n'est même plus...
On est dans la survie pure, là.
Et on nous rappelle, pour tous ceux qui auraient peur qu'on leur pique leur petit travail... que certains employeurs profitent des personnes en situation irrégulière pour les embaucher de manière non déclarée et les soumettent à de très bas salaires et à des conditions de travail précaires. Notons que les migrants occupent très souvent des emplois peu qualifiés et pénibles dont nous ne voulons pas. Par contre, dans de nombreux cas, ils peuvent générer des emplois lorsqu'ils créent leurs propres entreprises. Ils payent les impôts et injectent de l'argent dans notre économie. Effectivement, moi j'aimerais bien saluer tous les patrons de chantier et tout ça qui doivent juste en fait se frotter les mains en ce moment en se disant qu'effectivement ça les arrange bien parce que, bon, d'habitude ils le faisaient, mais avec les populations, avec les Roumains, les Bulgares, mais là il y a toute une arrivée de main-d'œuvre en fait, qui vont même pas avoir besoin vraiment de sélectionner, qui arriveront comme ça sur les chantiers. Et dont ils pourront profiter pour effectivement payer moins que le SMIC et les soumettre à des conditions de travail, bien sûr, tout ce qui est le plus horrible.
Puis alors, surtout, on va rappeler, il faut casser aussi d'autres fantasmes, on va d'abord rappeler que les gens qui arrivent à traverser et à voyager, généralement, c'est des gens qui sont plutôt issus de la classe moyenne, voire qui sont plutôt riches au départ dans le pays d'origine d'où ils viennent, parce que ça coûte très très cher en fait, hein, de voyager. On voit les images des gens qui marchent le long des autoroutes et tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un trafic autour, avec des passeurs, des choses comme ça, qui ont un coût exorbitant, et que souvent, c'est des gens qui sont diplômés. Et du coup, on se retrouve avec des docteurs en physique qui se retrouvent à travailler pour pas très très cher sur des chantiers comme l'EPR, en n'étant pas super bien déclaré par Bouygues, par exemple. Vous voyez, ça sert à ça, un migrant. C'est pas cher et en plus, ça peut être pas déclaré. Donc c'est ça qui est quand même terrible, c'est qu'on voit que ça ne touche pas que les métiers, ça touche aussi les métiers, on va dire, comme on dit, dégradés ou dégradants, comme on peut le dire, mais il y a aussi, à tous les niveaux et à toutes les échelles, on se sert de ça pour reprendre des gens qui, finalement, leur mettre encore des sacs de sable sur les épaules, quoi.
Pour les passeurs, effectivement, pour le coût est estimé entre 3 000 et 5 000 euros pour le trajet, mmh, par personne. Mmh. Donc, vous multipliez ça par 2, voire par 3, s'il y a un couple, par exemple, avec un enfant, vous en êtes, en fait, à des frais de 15 000 euros. Donc, effectivement, ça sélectionne aussi l'arrivée.
Ce qui n'est pas du tout une façon de dire que, attention, hein, que les migrants qui viennent seraient que des riches. Mmh. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est que déjà, au départ, il y a une sélection par l'argent qui se fait et qui est déjà une sélection terrible. C'est qu'on est dans un pays en guerre et on va encore avoir cette sélection-là. Donc, ça veut dire qu'il y a en plus des gens qu'on ne peut pas protéger parce qu'on ne peut pas, même pas leur donner le statut de réfugié, qui sont sous les bombes aujourd'hui et qui, de toute façon, n'ont pas d'autre choix que d'attendre que ça se passe et de survivre, quoi. Et ça, il faut le garder en tête, quoi. C'est pas des gens qui viennent juste pour le plaisir de voir si en France le chocolat est meilleur qu'en Suisse, quoi.
Non, mais c'est encore une fois pour répondre en fait à cette espèce de, enfin, à tous les commentaires qu'on est en train de faire et de créer, en plus qui sont véhiculés, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de fausses images qu'en ce moment, surtout effectivement avec la facilitation des réseaux sociaux à multiplier et à partager l'information. On n'a jamais vu d'images autant trafiquées qu'en ce moment. Et aussi, le commentaire de « Ah, mais ouais, d'accord, c'est la solidarité internationale européenne, mais bon, dans notre propre pays, c'est la crise, c'est la merde, on devrait d'abord régler nos problèmes. » J'aimerais juste répondre que y a deux choses. Il y a le problème de fond, et là, il y a la crise. Il y a un souci au niveau de l'emploi, mais ça, c'est un problème de fond. Je pense qu'on est tous au courant. Et il y a ce problème d'urgence. Et alors, on fait quoi? C'est-à-dire qu'on serait censé dire « Ah bah non, nous, notre pays, on a ce problème de fond, ce souci de l'emploi, ce souci aussi du seuil de pauvreté, alors on n'accueille personne. » Enfin, au bout d'un moment, c'est marrant, comme tout d'un coup, tout le monde se réveille et dit « Ah bah oui, mais on a cette pauvreté en France, quoi. »
C'est comme le truc sur les SDF qui me dégoûte au plus haut point, en disant « Oui, mais on ferait bien de s'occuper des SDF. » Mais allons-y, quoi. Enfin, je veux dire, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il n'y a pas de hiérarchisation de la misère. Et puis surtout, moi, tous ces gens qui d'un seul coup se révèlent être plus, j'allais dire, ouais, plus révolutionnaires que les révolutionnaires et qui veulent changer ce système, mais je les invite, allez-y, prenez vos cartes syndicales, prenez vos petits pieds et on est parti, quoi. On y va. C'est le moment d'aller taper sur vos patrons pour qu'on partage le travail. Allez, chiche. Bah, moi, j'attends.
Oui, puis c'est toujours pareil. Quand tu vois d'autres pays qui sont dans des états... je sais pas, je pense au Liban où la situation politique, etc., est carrément pas la même et bien plus perturbée, on va dire, à la rigueur que le train-train de la petite politique politicienne française. Et on serait pas en mesure d'accueillir des gens, quoi. Enfin, c'est juste... Tu te dis, mais les gens, il faut qu'on se réveille quand même. Faut absolument. Mais après, en même temps, tout ce problème, moi, c'est ça aussi un peu qui me fait un peu halluciner, c'est que maintenant, tout le monde s'en soucie. Et qu'en même temps, je pense qu'avant que ce jeune enfant soit ramassé par un garde, je pense que la mer Méditerranée, elle baigne déjà de plein de cadavres, en fait. Et que là, les grands médias ont décidé que, et tout le monde se réveille. Non, mais c'est assez dingue aussi, quoi. Et puis, effectivement, tu retombes sur ces trucs nationalistes de la misère, quoi. C'est-à-dire ton SDF français. Oui. C'est incroyable, c'est à vomir. Hein. Mais de toute façon, il y a un déferlement en ce moment haineux, assez répandu sur la surface Europe et je pense même sur la surface globe, en fait. Parce qu'on avait aussi eu la situation, il y a eu la situation, c'était en Asie, alors je ne sais plus quel pays. C'était à la Thaïlande.
À la Thaïlande avec les réfugiés de Birmanie.
Et tu te dis, oui, effectivement, c'est partout. On va agiter justement ce petit drapeau nationaliste en disant ah, attention, le grand danger. En fait, effectivement, c'est ce que tu disais avant, quoi. C'est juste des gens qui veulent essayer de vivre, en fait, parce qu'il y a des bombes qui tombent de partout et qu'ils n'ont plus à bouffer, plus rien. Enfin, hier soir encore, j'entendais un mec qui disait, mais nous, je crois qu'il était de. de Syrie. Il dit, mais ça fait 3 ans qu'on n'a plus d'électricité, qu'on n'a plus d'eau. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi? Enfin, à un moment donné, ouais, je me casse, quoi. Enfin, bah oui. Vous feriez quoi, en fait?
Mais en plus, rappelons que ça va, enfin, les réfugiés viennent et généralement repartent après que le conflit ait cessé et que la situation soit rétablie. Et là, enfin, on est vraiment dans une situation d'urgence et je pense que c'est important de le rappeler, de le clamer, parce qu'apparemment, les oreilles n'ont jamais été aussi sourdes qu'en ce moment. Mais c'est-à-dire que, oui, peut-être que, enfin, si c'est de l'emploi, ça va être et de l'emploi précaire et de l'emploi temporaire. Et qu'on va leur donner malheureusement le minimum de ressources pour vivre. Et pendant peut-être 2-3 ans, c'est des gens qui vont survivre. Et ça, je pense qu'il faut aussi le répéter, mais ils vont survivre. Ce n'est pas des gens qui vont vivre, parce qu'on ne leur donnera sûrement pas les moyens. On reviendra un peu sur les moyens qu'on peut leur donner. Mais on n'est pas en mesure, et puis on ne se donne pas les mesures non plus de déployer d'autres moyens. Je sais pas, c'est Fab qui disait, mais au niveau de la migration espagnole, c'est ça, combien d'Espagnols sont repartis?
Ça, c'était un petit rappel historique, quoi. C'est que après la victoire de Franco en 39, il y a 500 000 Espagnols qui sont arrivés en quelques jours en France. Alors après, on a le choix, hein. Soit on fait comme à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire, on crée des jolis petits camps et on met les gens dedans et on espère qu'ils crèvent à petit feu. Ça, c'était le gouvernement de Prévichy, hein, pour ceux qui voient un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans l'air à l'époque. Ou alors, on décide de se dire qu'on a un petit peu évolué, qu'on est en 2015 et que peut-être on n'est plus vraiment dans l'ère prévichiste, enfin, faut l'espérer, et puis ben, on essaye de faire les choses mieux. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement changé de vision par rapport aux gens qui arrivent et qu'on a encore l'idée de dire on va faire des camps, on va les enfermer là, et puis on va espérer qu'ils ne soient pas trop trop bougeons et puis que voilà quoi. Et ça, c'est un problème quand même, parce qu'on parle d'êtres humains. Parce qu'avant d'être des migrants et des réfugiés, ce sont des êtres humains, nos semblables en gros. Oui. Et que quand on en est à mépriser nos semblables, c'est qu'il y a quand même un léger souci quand c'est collectif comme celle-là actuellement. Quoi.
Pardon.
On passe un peu de musique ?
Ben écoute, allons-y.
êtes de retour dans la causerie et on vient de s'écouter I am, vous am I avec Shadow Show.
C'est pas facile à dire.
Non, c'est terrible, j'adore, mais alors voilà, c'est le petit stress avant de l'annoncer à chaque fois.
Eh ben on continue sur les migrants et les réfugiés, les êtres humains.
Oui, c'est
ça. Et comme on disait, c'est une causerie spéciale autour d'une thématique un peu d'actualité, mais qu'on essaye de traiter un peu à notre façon, comme d'habitude. Et Jean-Yves, toi, tu as voulu t'intéresser aux moyens mis par l'Europe autour de tout ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Faire un peu un historique, parce que bon, bah, y a tout ce qui est là fait en ce moment, ou qui n'est pas fait d'ailleurs en ce moment. C'est peut-être plus juste. Et je voulais un peu, justement, parce qu'on parle des fois... Vous avez sûrement déjà dû entendre des mots comme Frontex, des choses comme ça. Et que je me suis dit, tiens, pourquoi pas fouiller un petit peu dans ce qui a été fait au niveau de l'Europe. Parce que je croyais que c'était intéressant de voir un peu ce qui s'y dessine comme trait quand même. Parce que derrière certaines propositions, je trouve qu'il y a vraiment des traits qui se dessinent. Donc voilà. Ce que je voulais aussi rappeler, bah justement, c'était... comme ils font, là, bloquer les frontières, les murs, les systèmes de surveillance... Parce que quand même, il faut savoir qu'entre la Turquie et la Grèce, il y a un mur. Entre la Turquie et la Bulgarie, il y a un mur. Dans les enclaves espagnoles au Maroc, c'est Ceuta et Melilla. C'est pareil. Hein. Alors, il y a du barbelé, des barrières de dissuasion, comme ils aiment à appeler ça. Il y a des radars, des diffuseurs de gaz lacrymo, des détecteurs de mouvement. Enfin, c'est un système militaire mis... aux frontières et ça coûte du pognon, c'est 4 milliards à peu près d'euros pour tout ça et en fait il y a juste 700 millions qui sont consacrés aux procédures d'asile sur 4 milliards. Donc on pourrait là aussi...
Sur 4 milliards ou par rapport à 4 milliards ? C'est 4 milliards dont 700 millions pour les procédures d'asile, d'accord.
Non, seul 17%, c'est oui, 700 d'accord. millions qui sont pour les procédures d'asile. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Je trouve que rien que ça, ça dessine déjà de façon les traits. Et puis, enfin, pour celles et ceux qui suivent un peu ces questions-là, bah oui, enfin, on sait qu'il y a des camps, etc. Et que c'est juste terrible parce qu'on fait la guerre en fait aux pauvres. On l'a fait déjà. Enfin, ils les font déjà la guerre aux pauvres à l'intérieur du pays. Ils font aussi la guerre des pauvres aux frontières, ou en tout cas ceux qui voudraient juste effectivement vivre un peu plus en tranquillité.
Et c'est sans parler, je suppose, des camps qu'on fait en lien avec des grandes démocraties, comme on faisait à l'époque de Kadhafi, ou avec Bouteflika.
C'est ça, il y avait cette idée de... C'est une logique très capitaliste. Ils externalisent en fait toutes les procédures, enfin même pas les procédures, c'est-à-dire qu'il y a quand même des systèmes où on empêche les gens même de partir. Donc on les fout dans des camps avec l'accord de certains pays qui étaient effectivement tenus, comme la Libye, où il y a des centres de rétention,
C'était à l'époque de Kadhafi, on se doute bien que c'était pas des clubs de vacances.
Oui, ça s'en est déjà nulle part et je pense que c'était juste pas mieux.
Il les libérait dans le désert,
oui,
c'est ça,
dans
sans
désert,
eau.
Ouais, c'est ça. De bonnes pratiques, quoi. Oui. Tu vois, des trucs sympathiques. Et donc voilà, et après, je voulais justement aussi rappeler Frontex, en fait, parce qu'on en entend parler et que là aussi, c'est se rappeler que ça a été créé en 2004, donc c'était quand même il y a plus de 11 piges. Donc Frontex, c'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Je trouve rien que l'appellation, déjà, c'est magnifique.
Bien sûr, c'est toujours un joli acronyme, Frontex.
Frontières extérieures. Voilà. Et donc, Frontex, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ça coordonne les opérations des États membres dans la gestion des frontières. Donc tout ce qui est barbelé, etc., etc. Et dans l'assistance renforcée aux frontières, donc, et de la formation des gardes-frontières, et aussi l'organisation de, entre guillemets, des opérations de retour conjointes.
Les expulsions, autrement dit.
Voilà, c'est ça. Là aussi, c'est une belle logique toujours qui se met en place en Europe, c'est magnifique. Et il y a aussi les rabbits. Alors les rabbits, ça fait partie de Frontex. Et ça, ça a été créé en 2007. Et c'est ce qui permet de constituer des équipes d'intervention rapide. Hein, parce que quand même, il y a des dangers aux frontières. Il y a des gens qui veulent rentrer. C'est grave, hein. Vous imaginez. Donc voilà, donc tout ça, c'est aussi... c'est toujours cette militarisation de l'Europe. Hein, vraiment, c'est... Alors moi, j'ai cherché des infos et j'en ai trouvé, je vais quand même le citer, sur le site de l'asso qui s'appelle... Front Exit, c'est frontexit.org et c'est un regroupement de plein d'associations à travers le nord et le sud de la Méditerranée. Donc ça c'est et qui effectivement eux aussi enfin dénoncent toute cette militarisation, tous ces moyens militaires parce que c'est vraiment ça. Frontex c'est des avions, c'est des hélicoptères, c'est des navires, enfin c'est vraiment des moyens de guerre quoi.
Il faut être clair, hein, Frontex en fait c'est une part de l'armée et des forces de police qui sont donc en gros utilisées uniquement pour chasser du migrant.
C'est ça. C'est
et c'est vraiment migrant, c'est même pas réfugié. Ouais. C'est toute personne qui voudrait rentrer. C'est ça. Hein,
C'est ça. Donc voilà, donc après, j'ai un peu recherché ce que l'Europe a pu pondre autour de tout ça. C'est en 2008, ils ont fait un pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et c'est toujours assez... les mots qu'ils utilisent, on est dans organiser l'immigration selon les besoins quoi, des États, selon les besoins. Mais enfin, le premier besoin qu'on devrait peut-être essayer de respecter, en fait, c'est le souhait des gens qui viennent de juste fuir des situations de guerre. Quoi.
Ou même pas, qui ont envie de venir, ils viennent.
Oui, mais effectivement. Mais, et tu te dis juste, mais enfin, donc voilà, on est toujours dans une logique très comptable, en fait, et très, très entreprise. On a complètement éloigné toute notion de solidarité et tout ça, et c'est... c'est vraiment gerbant.
Ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que dans la directive de 2008, il y avait deux volets. Le premier, il concernait donc effectivement la gestion de l'immigration. Mais le deuxième, en fait, justement, il concernait l'accueil des réfugiés. Alors, autant on est très très fort pour appliquer le premier volet, autant sur le deuxième volet, qui est sur l'accueil des réfugiés, il n'y a rien qui est fait. Donc comme ça, au moins, ça s'est fait. Mais c'est génial, c'est que même les textes qu'on se met contraignants au niveau de l'Europe, on les suit pas, quoi.
C'est exactement ça, effectivement. Et ça continue, alors tu as toujours un petit volet, comme tu dis, tu vois, d'aide. Et en fait, à côté de ça, tu as toujours 4 ou 5 définitions qui, elles, vont complètement à l'opposé. Et c'est là où tu dis, ben oui, l'Europe, en fait, dans sa construction, au fur et à mesure... ces textes, ils sont soit pas assez clairs, où tu te dis, en fait, ça peut être utilisé par tout le monde dans tous les sens, et les limites sont très floues. Enfin, tu peux un peu faire tout ce que tu veux, en fait, pour t'assurer de plein de choses, être le plus autoritaire ou être aussi d'une autre manière. Donc, c'est assez incroyable. En 2011 aussi, c'était le renfort au contrôle aux bordures de Schengen et des frontières de l'Europe. Hein. Donc, c'est là aussi, je cite dans le texte, c'est mise à profit de l'immigration légale. C'est toujours... c'est attention, si on laisse rentrer du monde, c'est pas pour rien quand même. Faut quand même qu'ils servent les caisses des... patron, en fait.
C'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne fait aujourd'hui rentrer 800 000 personnes. Il y a aussi, faut pas non plus se nier, il y a un élan de solidarité, mais il y a aussi l'idée pour le patronat allemand, qui est pas bête, qui a fait ses calculs, si l'Allemagne continue comme ça, et avec le peu d'enfants que font les Allemands, comme dirait ce cher président qu'on a, là, Hollande, je trouve ça génial. Mais bref, donc en gros, l'Allemagne serait moins peuplée que la France en 2060. C'est-à-dire, c'est pas très loin, 2060. Et donc, du coup, le patronat allemand, il a compris que ça voulait dire qu'il perdait sa superbe, parce que pour avoir aujourd'hui la superbe économie allemande, il faut des super bras, parce que les choses se font pas toutes seules. Donc c'est pour ça que là, eux, ils font bien la mise à profit. Ils sont bien compris.
Oui, oui.
Mais c'est horrible.
On continue comme ça. Genre en 2013, c'était suite à 400 morts à Lampedusa, les États, lors d'un Conseil européen en octobre, ce qu'ils décident, c'est plutôt de renforcer les contrôles aux frontières et les moyens de Frontex. Et tu te dis,
ils auraient pu être plus cyniques en disant qu'on pouvait monter des sociétés pour faire des cercueils avec des migrants. Il y a un truc. Je pense qu'ils auraient pu aller jusque-là, quoi.
Et Frontex aussi, je voulais le rappeler, c'est 6 centres à travers le monde. Ça va de la Finlande à Berlin, à Rome, Madrid, en Autriche aussi, en Angleterre et en Grèce. Donc c'est ce que je me disais quand je lisais tout ça, t'as l'impression que tout est fait pour que, c'est une utilisation des êtres humains. Alors c'est déjà à notre échelle aussi ce qui se passe tous les jours, on travaille, tout ça, on est dans une utilisation d'êtres humains. Et là,
c'est des tapes au-dessus. Quoi.
Ouais, c'est ça, on continue. Quoi. Donc voilà, mais à côté de ça, c'est aussi toujours pareil. Hein, on peut avoir la vision comme ça, mais il y a aussi des gens qui se bougent le cul. Il y a des assos, il y a des assos à Calais qui aident aussi. Il y a des assos partout, il y a des gens qui aident partout aussi, ça faut aussi le dire.
Oui, des assos comme Migre Europe ou la CIMAD qui font un boulot énorme.
Oui, c'est ça. Les politiquards sont fascistes, sont suivis par certaines populations. Mais toute la population n'est pas non plus de cet ordre-là, et je trouve qu'il faut aussi se le rappeler. Quoi. Voilà.
On peut peut-être donner l'exemple des Islandais, j'ai trouvé en même temps très, très touchant et en même temps très surréaliste, un peu comme savent l'être les Islandais, sur certains points. Et en fait, du coup, ils ont 80 000 personnes en Islande, je vous rappelle qu'il y a 300 000 habitants, qui ont donc déclaré qu'ils étaient prêts à accueillir un migrant ou une famille de migrants chez eux. Voilà. Et je trouve c'est juste. Ils l'ont fait vraiment.
C'était les premiers en plus à parler sur le sujet, à s'exprimer sur le sujet. Quoi.
Et donc je trouve des fois que les populations sont surprenantes et c'est chouette quand justement ça se passe comme ça, sans qu'il y ait d'autre raison que de dire s'il faut, il n'y a pas de problème, on est là. Quoi. Et voilà, ça montre que parfois quand on est un peu, à faire autre chose que se regarder le nombril, ça marche vachement mieux. Quoi. Mm-hmm. C'est
pour. Ouais. Et je voulais juste rappeler encore une fois les coordonnées de l'asso.
Ouais.
C'est frontexit.org.
On le mettra sur le blog.
On le mettra sur le blog. Enfin, c'est vraiment pareil. Ça fournit plein aussi d'outils, etc. Et ça continue de nourrir aussi les réflexions. Voilà, on passe à la musique.
Allez.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte.
Notre sol.
Et voilà, vous êtes de retour à la causerie, toujours et encore sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter donc, un titre très connu de Tikenja Fakoly, donc Ouvrez les frontières, et c'était en duo avec...
Soprano.
Merci.
Que ouais. Tu n'aimes pas, c'est pour ça que tu te rappelles plus de son nom.
C'est ça. Mais on ne reviendra pas dessus, c'est un choix artistique de Tikenja Fakoly que je respecte.
Ouais. Non, mais voilà, après, on a le droit d'aimer Soprano.
Bah oui, on a le droit. On va continuer toujours autour de cette causerie sur un thème un peu central. Et là, je crois que c'est Fab, tu vas nous parler des moyens, en fait, qu'on a.
Bah oui, tu parlais des moyens donnés, par exemple, à Frontex, avec ses 4 milliards par an, hein, rappelons-le, qui sont donc dépensés pour empêcher les migrants méchants, voleurs de travail et violeurs de poules, de rentrer sur nos territoires. Non, mais très clairement, plus simplement pour aller flinguer de l'humain, hein, faut dire les choses comme on est. Parce que, pour être clair, si les gens se noient en Méditerranée aujourd'hui, c'est parce que les frontières sont fermées. Mmh. Et oui.
Oui, et je voulais préciser aussi, une des missions de Frontex, c'est de détruire les embarcations des migrants.
Oui, voilà.
Avant donc, qu'ils ne les prennent. Ouais, okay.
Mais c'est pour leur sécurité.
Oui, c'est ça, ouais.
D'ailleurs, moi, je crois tout à fait aux militaires qui détruisent les choses avant que les gens soient dessus. Bizarrement, j'ai un doute. Mais enfin bon, tout ça pour dire que voilà, donc tu parlais des 4 milliards. Alors qu'il y a, déjà, je vais vous parler d'un organisme pas du tout connu, hein, qui sert à rien, qui s'appelle la Commission européenne, qui a chiffré combien ça coûterait de donner des conditions de vie décentes à l'ensemble des migrants, donc ces réfugiés plus personnes qui voudraient venir simplement s'installer en Europe ou rentrer en Europe pour leur donner une vie décente. Alors une vie décente pour la Commission européenne, c'est une l'éducation pour les enfants, des soins pour tout le monde et un logement de type, alors j'adore la Commission européenne et sa précision, un logement de type petite embarcation non mobile. En gros, un appartement. Voilà, vous voyez, c'est... En gros, c'était pour stigmatiser les Roms, cette phrase. Hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc, ça, c'est quand même magnifique. Et en fait, ils ont fait les chiffrages et en fait, ça coûterait 6 milliards par an. 4 milliards pour Frontex, hein, 6 milliards par an. On va juste rappeler, comme ça, au passage, que la PAC, c'est 9,1 milliards d'euros pour la France, par exemple, ou que, prenons un truc au hasard, les frais de représentation de l'Europe au niveau mondial, c'est environ 3 milliards. Donc, pour donner à tous ceux qui voudraient arriver en Europe, voilà, ça coûterait à peu près 6 milliards par an. Et la Commission européenne, elle a fait ça, elle a chiffré ça, et elle l'a vite enterré, hein, ce chiffre-là, parce que c'est quand même pas énorme, hein, quand on regarde bien. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moyens qui existent au niveau européen et au niveau local, donc au niveau des villes, y compris en France. C'est par exemple la réquisition de logements. Parce qu'en fait, on a le droit, en France, comme d'ailleurs, je me suis renseigné, dans 24 des 28 pays de la communauté européenne, de l'Union européenne, pardon, on a le droit, en fait, de réquisitionner des logements en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'une mairie peut dire écoutez, ce logement-là, je vais le réquisitionner et je vais le faire habiter par des gens parce que ces gens sont à la rue. Et bien sûr, ça, on ne le met pas en place. Alors, on ne le met pas en place ni pour les migrants, ni pour les SDF. Donc, les gens qui se plaignent de nos SDF qu'on laisse mourir dehors parce qu'on va prendre des migrants, je les invite déjà à aller taper à la porte des mairies pour aller dire vous avez le droit de réquisitionner des logements pour les gens qui sont mal logés ou pas logés du tout. Hein, voilà. Mais ça, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que si on commençait à le faire, on verrait qu'on pourrait faire de l'action publique. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait contrer en fait l'idée que pour se loger, il faut payer 1350 euros de loyer quand on veut habiter sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est à côté de Canu, il y a un truc là, un machin qui vend des apparts et qui les loue, et c'était les prix pour un T3. Hein. Voilà, donc ça c'était le premier exemple que je voulais dire. Et puis là, le deuxième, c'est la répartition des richesses, parce que ça on oublie toujours la répartition des richesses. Alors j'entends déjà les fans de la Valkyrie blonde et ceux du petit agité nous dire « Oui, mais non, mais les migrants ça coûte, et alors que ça rapporte rien. » Alors, pas de bol, ça aussi ça a été chiffré. Et ça a été chiffré par l'OCDE. Et l'OCDE a démontré qu'en France, les gens qui sont issus de la migration directe, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas français, mais qui ont des droits, ou même d'ailleurs, ils ont inclus à l'intérieur les travailleurs sans papier, rapportent 12 milliards d'euros par an aux caisses de l'État. Voilà. Et ont un coût, parce que bien sûr, vous savez, pour l'OCDE, on a tous un coût.
C'est ça.
Et ont un coût estimé maximal de 9 milliards d'euros. Ce qui veut dire que chaque année, les personnes en situation de migration, comme ils disent à l'OCDE, ils ont une plus-value pour l'État de 3 milliards d'euros. C'est pas rien, hein? bouge pas une petite paille, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, vous, amis de François Hollande, le cadeau de 2 milliards qu'il va vous faire sur vos impôts, bah, c'est grâce aux migrants, remerciez-les. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ce petit delta qui permet de faire des cadeaux fiscaux pour être réélu en 2017. Et voilà. Mais ça, c'est intéressant. Mais surtout, il y a une troisième chose, c'est que on se demandait pourquoi on tuait l'inspection du travail. Vous savez, c'est... Alors bien sûr, on tue l'inspection du travail parce qu'on a envie que les patrons ne soient plus embêtés par cette méchante inspection du travail qui vient voir comment on va bien, si on est sur l'autre lieu de travail, si on n'abuse pas et tout et tout. Mais il y a aussi un truc que faisait l'inspection du travail. C'est le contrôle du travail au noir. Mmh. Et pas dans l'optique de dire qu'on va faire virer les gens. Non, 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 au contraire. Dans l'optique de dire qu'une personne qui était employée au noir, généralement, réussissait à être régularisée. Parce qu'en fait, c'était démontré qu'elle avait été exploitée. Et si on a tué la première branche de l'inspection du travail qu'on a tuée, c'est la branche qui s'occupait des travailleurs au noir. Voilà. Parce qu'il faut être très clair, il y a du travail au noir généralement et globalement, on le sait, c'est pas le souci. Sauf que la majorité des gens qui font plus de 35 heures au noir sont généralement issus de situations critiques. Et ces situations critiques, ça inclut les migrants et les réfugiés. Donc du coup, vous voyez que on arrive très facilement à créer des situations pour que les gens soient encore moins bien. C'est-à-dire que quand ils étaient déjà pas bien, on continue. Et tous ces moyens-là existent. Sauf que, comme je le disais, on fait rien. Et on fait rien. Pourquoi ? Parce qu'électoralement, c'est bien de rien faire. Parce que le migrant, c'est quand même le pestiféré du 21e siècle. C'est quand même celui qu'on peut montrer du doigt et qui est responsable de tout. Mmh. Alors ça, à gauche comme à droite, hein, en ce moment, ils s'en donnent tous à cœur joie ou presque.
En fait, on ne sait plus vraiment qui a dit ouais, à gauche, en fait.
Oui. On devrait jouer à qui attribuer des phrases, c'est parce ça. Qu'on ne sait plus trop.
Je vais faire juste une exception pour deux parties. Pas que je sois fan des partis politiques, mais je vais citer quand même Europe Écologie Les Verts et sa présidente Emmanuelle Cosse qui avait une excellente sortie médiatique en disant qu'il était inadmissible qu'on n'accueille pas les gens, point barre, et elle a bien dit le point barre, donc je trouvais que c'était intéressant de s'arrêter à ça. Et puis le NPA qui a fait une très belle sortie politique, aussi sur à peu près du même acabit, mais les autres ont tendance un petit peu à pédaler dans la semoule. Alors c'est par exemple... Prendre l'exemple du Parti communiste qui ne sait plus trop migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Enfin, il se mélange un peu les pinceaux entre tout ça. Mais en fait, finalement, on s'en fout, quoi. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un veut s'installer, venir, s'il vous demande juste un petit bout de place, on lui fait la place et puis c'est tout. On arrête de se poser mille ans la question. Et il y a des moyens. Alors, sur Lyon, petite agglomération, combien qu'il y aurait de logements vides en ce moment ?
Je pourrais pas te dire, je sais pas.
À peu près 11 700. Voilà. Et combien qu'il y a de SDF à Lyon ?
200.
Environ 200 et des brouettes. Donc vous voyez, si on veut loger du monde, on devrait y arriver assez facilement hein, quand même. Donc vous voyez, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a en réalité les moyens de faire, mais on ne le fait pas.
Attends, mais ça veut dire que si on peut, c'est peut-être qu'on ne veut pas ?
C'est qu'on ne veut pas, clairement. Quoi. Et alors c'est drôle parce que les logements vides, ils le justifient comment ? En disant, c'est des transitions. Vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les moments où on construit, les gens s'en vont et tout, sauf qu'il y a des transitions qui durent des années. Quoi. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Il y a des tours à bureaux complètement vides à Lyon depuis des années. Et que ça, c'est reconvertible en logements décents et habitables assez facilement. Donc c'est vraiment une envie de ne rien faire, en fait. Autre exemple, la fameuse jungle de Calais. Alors ça, j'adore. Alors vous voyez, vous notez hein, tout de suite d'ailleurs le côté animal qu'on donne aux migrants. C'est-à-dire que ce migrant, généralement un peu basané, il vit dans la jungle. Hein, parce que ça, c'est ce qu'il lui faut. Quoi. Et pour peu qu'il soit noir, c'est encore mieux. Parce que comme ça, du coup, on peut carrément le comparer à ces films pour enfants qu'on connaissait quand on était petit. Donc on a mis la jungle. Ça, vous voyez. En fait, la jungle de Calais, ça existe pourquoi ? Parce qu'on ne met aucun moyen. Prenez un pays comme le Liban. Le Liban a accueilli 2 millions de réfugiés sur son sol. 2 millions. Le Liban,
c'est la moitié.
Je crois que c'est quasiment la moitié ou le quart de sa population. C'est énorme, quoi. Et ils ont fait ça, ils essayent de faire ça dans des conditions les plus décentes possibles. Bien sûr, c'est pas parfait. En France, on laisse juste faire. Vous n'allez pas me faire croire qu'en France, on ne sait pas poser des algéco pour accueillir les gens. On ne sait pas construire des tentes pour que les gens puissent avoir un minimum de toit sur la tête. On ne saurait pas amener l'eau rapidement quelque part. Non, mais on n'est pas un pays sous-développé, la France, il me semble quand même. Donc, on choisit de maintenir les gens dans cette situation-là pour pouvoir politiquement ensuite s'en servir. Et la fameuse jungle de Calais, c'est juste une expression journalistique de merde. Et très honnêtement, ils disent, les journalistes souvent, oui, mais c'est parce que les migrants eux-mêmes appellent ça la jungle. Mais oui, c'est parce qu'ils me disent, c'est la loi de la jungle qu'on laisse s'installer, mais on la laisse s'installer par l'ultra-misère.
Oui, il n'y a rien de...
C'est pas une volonté, quoi. Et voilà. Et ça, c'est un exemple très concret. Pareil pour la scolarisation. Vous savez que la France, parce qu'elle est signataire de la Convention des droits de l'enfant, depuis 1989, a pour obligation internationale de scolariser tout enfant qui n'est pas scolarisé sur son sol. Point. C'est tout ce qu'il y a écrit. Hein. Il n'y a pas écrit qu'il faut qu'il soit... voilà. À partir du moment où la personne est sur son sol, l'enfant est sur son sol, il doit être scolarisé. Et ben, en France, c'est moins d'un enfant de migrant sur quatre qui arrive à avoir accès à la scolarisation. Pour les enfants roms, on a moins de 1 sur 7. Vous voyez un petit peu le truc. Mais après ça, vous pouvez faire des beaux discours en disant « Mais ils sont pas très très bien élevés, et puis ils sont illettrés, et puis en plus c'est ceci. » Mais en fait, on crée les situations, concrètement, volontairement. C'est une création politique du nouveau pestiféré. Et oui, c'est ça qui m'horripile, parce que les moyens, on les a. Et je vais finir sur une note qui moi, m'a fait un petit peu sourire, on va dire jaune. Et je vais remercier une gentille dame qui m'a fait cette remarque un jour sur Facebook. Oui, je suis sur Facebook. Qui m'a dit, va voir ce lien. Et en fait, il y a une jeune fille, une étudiante anglaise, qui soutenait en fait une pas une thèse, comme on dit, vous savez, un devoir de fin d'études devant ses petits camarades sur une chaire, comme ça. Enfin, elle voilà, une sorte de mémoire, mais elle était assez jeune, donc je ne sais pas, ça doit être dans une école anglaise. Et en fait, elle a démontré par une équation mathématique assez simple, c'est-à-dire une addition, hein, et puis une addition à côté, qu'en fait, chaque année, on dépensait dans le monde environ 2 996 milliards d'euros pour faire la guerre. Voilà, c'est le budget militaire mondial à peu près. Et à côté de ça, elle a fait le calcul pour comment on pourrait faire pour que tous les êtres humains aient accès à l'eau, à l'électricité, à une éducation correcte, à la nourriture et évidemment à la justice, parce qu'elle n'a pas oublié la justice. Et elle a fait le calcul sur le côté et ça coûterait 90 milliards par an. Voilà, bah, une fois qu'on a posé ça, on se rend compte que c'est vraiment une volonté et un choix de préférer que les gens s'entretuent plutôt qu'ils finissent par vivre à peu près correctement. Et ça, je trouve, c'est très parlant. C'est très parlant de la volonté politique qu'on a, bah, de montrer le migrant, de montrer le réfugié, de montrer le demandeur d'asile, de montrer l'être humain qui est à côté de nous, bah, comme on montrerait des rats, parce que ça sert politiquement d'avoir des trucs qui font peur à la population. Voilà. Et moi, je trouve que c'est juste honteux. Vraiment, et voilà, je voulais juste parler de ça, parce que... Et je finis juste sur la déclaration de Gérard Collomb.
Oh, bah...
Ah, un petit G, ça fait longtemps.
Qu'il a dit ouais, notre G. Et ben G, il a dit, Lyon, c'est déjà une ville qui a accueilli beaucoup, beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, donc peut-être qu'on ne saurait pas accueillir plus de migrants. Oui, alors j'aimerais rappeler juste à Gérard Collomb que faudrait que tu arrêtes de te dire de la merde, en fait, tout simplement. Et puis que, accessoirement, justement, si ce maire est aussi fan de la ville de Lyon qu'il le dit, de réapprendre l'histoire de la ville et de se rappeler que s'il y a bien une ville en France qui est née du brassage, justement, des populations, c'est bien une ville qui est entourée par deux fleuves et que ça aide à ce que les gens viennent et partent et reviennent et s'en aillent. Voilà, donc ce serait bien qu'ils réapprennent un tout petit peu qu'on sait faire et que c'est pas un souci, que tout le monde vienne et on s'en fout.
Et rappelons-le que lui aussi se dit de gauche.
Ah bon ?
Non mais je préfère...
Comme Emmanuel Macron, non ?
Comme la même gauche. Plein, quoi.
Donc voilà.
Ouais. Bon.
Un petit peu de musique ?
Allons-y.
C'est parti.
Sait-on pourquoi un matin cette bête s'est réveillée au milieu de pantins qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort « Nous mettrons l'étranger dehors !» Puis cette ogresse aguicheuse fit des clowns imitatifs leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leur dictat xénophobe on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. cette bête a surgi. Le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit. Il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé. C'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
De retour dans la causerie dimanche 22-23h, c'était un titre de Pierre Perret, parce que moi j'aime beaucoup Pierre Perret, je vous invite à redécouvrir Pierre Perret. Et c'était La bête est revenue qu'il avait écrit suite à la remontée, alors pas que du Front National, mais aussi des idées xénophobes, parce que comme il le dit, c'est pas que le Front National, c'est aussi beaucoup plus largement que ça. Et je crois que ça collait vachement bien avec la thématique de ce soir, parce qu'effectivement, quand on lit certains réseaux sociaux ou quand on écoute certaines conversations de café, on se rend bien compte que la bête, elle est bien là quand même. Hein. Elle n'est pas que revenue, elle s'installe là. Donc voilà, c'est un peu voilà, histoire de rappeler ça.
Et bien, vu l'heure, on va attaquer les brèves.
Oui, alors là, par la face nord. Donc déjà, justement, on parlait des migrants, des humains, des réfugiés, de tout ça. Parce que moi, je trouve que les termes, j'aime bien le terme d'humains qui vivent. Voilà, c'est des humains, c'est bien de s'en rappeler. Mais il y a une permanence pour aider les personnes qui sont en difficulté par rapport par rapport à leur situation personnelle, justement parce qu'ils sont migrants, soit parce qu'ils sont sans papiers, soit parce qu'on leur a retiré les papiers, soit parce qu'on toutes ces situations qui existent malheureusement. Donc c'est une permanence qui a lieu une permanence juridique qui a lieu de 18h30 à 21h à la Lutine, et j'ai perdu le jour.
C'est tous les lundis.
C'est
tous les lundis.
Pardon. Donc voilà, et c'est 91 rue Montesquieu. Voilà.
Ok, eh ben moi j'ai une autre petite brève, c'est un rendez-vous, ça se passera à la librairie La Griffe, samedi 19 à partir de 15h, et ce sera, on va dire, une discussion avec l'auteur du livre Les Amazones de la Terreur, qui s'appelle donc Fanny Bunion, et ce sera parler des femmes dans les mouvements...
Révolutionnaire. Ou pas que d'ailleurs.
Oui, pas que, mais révolutionnaire en fait. D'Europe, je crois, majoritairement. Mmh. Donc voilà, donc rendez-vous à la librairie La Griffe.
C'est à 15h, c'est ça ?
C'est ça, 15h, je l'avais dit.
Non, mais c'est moi qui n'ai pas entendu. Okay. Samedi 19 à 15h.
Eh bien, on va se quitter.
Oui, peut-être quand même annoncer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est le retour de Cosmic George.
Et oui, pile pour l'équinoxe. Voilà,
qui nous revient et qui fera une émission, comme on vous le disait, autour de la création des planètes et des étoiles. Ça risque d'être très perché. Ça
va faire naissance et mort des planètes.
Naissance et mort des planètes, c'est ça, oui, qu'il avait dit.
Et aussi, vu qu'on va se quitter, quand même, on va faire des bisous aussi.
Aux absentes.
Oui, c'est ça. pardon.
Tu t'es perdu là. Reviens Jean-Yves, reviens.
À Nadège et à Jonathan, on fait des bisous, on les retrouve peut-être la semaine prochaine, sinon une prochaine fois. Et puis on termine peut-être aussi par l'appel à dons, comme toutes les semaines quand même pour la petite Radio Canu quand même, qui a 37 ans et quelques, et qui est toujours, on a lancé un appel à soutien il y a...
En mai 2014.
C'est ça. L'appel à soutien continue toujours. Et puis, on vous le répète toutes les semaines, donc vous connaissez normalement un petit peu la musique, mais pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas, c'est toujours, vous pouvez envoyer des chèques de soutien à Radio Canu, BP 1101, 69201, Lyon CEDEX 0. Voilà, et sinon vous allez sur le site internet de Radio Canu, vous y trouvez plein d'infos, l'historique, etc., etc. Et voilà, je crois qu'on s'arrête là.
Et puis j'ai juste un truc à dire, c'est par rapport à la thématique de ce soir, parce que je viens d'y penser, il y a plusieurs rassemblements qui sont organisés en ce moment. Renseignez-vous à Lyon autour de collectifs qui s'appellent Bienvenue aux réfugiés ou Refugees Welcome, parce que ça appartient d'Angleterre, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc du coup, ça vaut le coup de se renseigner, puis d'y participer si on a envie. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations qui viennent en aide aux personnes migrantes, parce qu'elles ont souvent besoin d'une chose essentielle, de temps militant, c'est-à-dire de gens qui peuvent donner des coups de main. Et il n'y a pas besoin d'être des experts pour donner des coups de main, mais juste d'avoir un peu de temps, des fois, à consacrer. Donc, n'hésitez pas à le faire, voilà.
Ok. Et on vous souhaite une bonne nuit.
Oui.
Et puis, à la semaine prochaine.
Et on se quitte avec quoi, Jean-Yves?
Against...
C'est ça. Against All Authority, avec le titre Barricade.
Ouais,
et casse dédié à Nadège.
Yo.
Toi-même, tu sais.
Remets-toi bien.
Ouais. Des bisous, ciao.
Salut.
You will never know the sound we feel when the air singing.